Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de poètes qui ont beaucoup exprimé la lutte contre le racisme, et qui ont issu de l'esclavage. Donc, nous aurons trois poètes. Un poète algérien, Bachir Adjali. Un poète, amérindien, c'est Atahualpa Yupanqui. Et nous terminerons un long passage sur Aimé Césaire. Alors, une petite réflexion comme ça. Le poème est le plus court chemin d'un homme à un autre, d'une femme à une autre. Et la poésie est la guillotine des idées reçues. C'est un autre monde dans le monde à explorer, accélérateur de la conscience, un acte de paix. Donc bon, Bachir Adjali, qui était membre du bureau exécutif de l'Union, a été de l'Union des écrivains algériens, donc il a fait toute la lutte contre la colonie. Il a été mis en prison par les Français. Il est resté 2 années. Ensuite, il a participé à l'insurrection. Et après, il a été encore mis en prison lorsque Ben Bella a été chassé. Voilà, donc, et il est resté après en résidence surveillée très longtemps dans le sud oranais. Alors, il est marié, père de 4 enfants. Adjali aussi est atteint d'un mal qui risque de lui faire perdre la vue. Et je crois qu'il est mort aveugle. Son œuvre poétique est très vaste. Il y travaille passionnément. Il a eu le temps, le pauvre. C'est l'une des voix les plus aiguës de la poésie algérienne, de langue française d'aujourd'hui. Il a un recueil sur lequel j'ai pris ses poèmes qui s'appelle « Que la joie demeure ». Lettre à ma femme. Je t'écris ces mots de ne point savoir où je suis, quels éclairs brûlent l'eau qui me noie. Je t'écris ces mots de ne plus savoir qui tourne autour du soleil ou de la terre au bout de cette corde. Je t'écris ces mots de ne point savoir où en sont les lianes dans leur progression vers ma gorge. Je t'écris ces mots de ne point savoir par quel organe le corps cédera à la mort. Je t'écris ces mots de ne point savoir la langue première des bouches hermétiques. Je t'écris ces mots de ne point savoir la différence entre le cri et le silence. Je t'écris ces mots de bien savoir que l'arbre apprend à lire dans les yeux. Je t'écris ces mots de bien savoir que la clameur existe, elle est mon chant d'espoir. Nous allons entendre un poème qui est un chant chleu du Haut Atlas. Et il est question d'être dans un lieu qui s'appelle Ribat. Lieu, alors on ne sait pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est un lieu dans la montagne, un rassemblement de maisons, de lieux d'habitation, mais en même temps des lieux un peu peut-être où il y a des choses importantes. Dans ce ribat, la lumière étant veilleuse. Dans ce ribat, l'innocence est ignorée. Dans ce ribat, de nains meurtriers. Dans ce ribat, fosse commune. Dans ce ribat, main coupée. Croît une espèce nouvelle d'araignée. Terreur des prophètes fugitifs. Dans ce ribat de faux monnayeurs, les mots changent de sens une fois échangés. Dans ce ribat en déséquilibre sur l'ouragan, les cellules sont malades, les soins sont interdits, sous peine d'en référer au chef Samarouch Hatiar. Dans ce ribat dégorgeur, en vain, je demande au cœur de trouver le rythme, au sang d'éteindre ses feux. Dans ce ribat de pillards, en vain, je demande aux yeux le mois de la brillance, à la plaie une mort subite. Dans ce ribat de coupe-jarret, en vain, je demande à la fièvre son identité, à la douleur son objectif. Dans ce ribat d'opiomane, en vain, je demande aux djinns leur religion, à la toux ses balles. Dans ce ribat, on ne sait où commence la mort, où prend fin la vie. Dans ce ribat de désespérance, je vis, je pratique l'ironie, je pleure, je ris. Dans ce ribat de la haine libre, j'aime de tous mes tourments, j'ai vaincu la peur, je suis libre. Dans ce ribat de la fin du monde, je chante, je greffe l'amitié sur des frênes. Alors, nous allons changer de lieu, nous allons passer de l'autre côté, c'est-à-dire on va passer en Argentine. Et là, nous allons entendre quelques textes de Atahualpa Yupanqui. grand ménestrel, grand poète, qui a fait, qui a été chanté dans le monde entier, que j'ai eu le plaisir, la joie de rencontrer et de l'entendre le voir jouer à côté de moi, avec ses grandes mains, son beau visage, Maya. Alors il chante, bien sûr, mais nous allons entendre seulement le texte. Et il chante dont le poème est un cri. Nous refusons le paysage. Voilà, le poème, c'est une sorte de refrain qui sera repris. Ce cri, c'est celui de la caravane indienne, le cri qui ne glisse ni ne traîne, le cri du grand silence qui descend dans la plaine, le cri du poncho et des longs cheveux lisses, des pieds infatigables, des mains vides. Nous refusons le paysage. Ce cri n'est pas celui de la fleur des Incas. Il est sans miel de lune ni soupir de flûte. Il ne sait rien des quenouilles agiles ni de la souple démarche des lamas. Nous refusons le paysage. Coquillage de la terre où résonnent les peines, sèche tes vieilles larmes. Brise ta faible flûte, que s'enfuient de ta gorge les silences déchirés, car l'Indien des sommets, le métis de la Pugna, ont enfin trouvé leur cri. Nous refusons le paysage. Tierra, tierra. Terre, terre réduite et sale. Oh, terre bien-aimée, des mains nous en avons, vaillantes, faites pour toi. Nous sèmerons le quinoa et l'orge et le maïs. Qu'importe si s'éteint la musique du fleuve quand 20 tracteurs rugissants auront empli de chants nouveaux les coteaux et les sables. Nous refusons le paysage. Nous en avons assez de la couleur locale, poncho, bariolé et couchant polychrome, et des sanglots de flûte sur la campagne aride, car le chant des Indiens a une douceur amère d'amour trompé et de fausses promesses. Le Yaravi résume toutes les solitudes. Nous refusons le paysage.
Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Pastos maduran. Me gusta verlo al verano cuando los pastos maduran.
Alors, ce n'est pas reconnu sa voix. Je crois que l'enregistrement n'est pas bon. Je crois que ça colle pas trop. Donc, voilà, oui, merde. Alors, c'est dommage parce que sa guitare en général est très belle. Donc c'est dommage parce que c'est un très grand chanteur, un grand poète. Je ne comprends pas pourquoi ça passe comme ça. C'est le disque sans doute, je ne sais pas. Ça a dû...
Je peux te proposer Duerme Negrito.
Ah, essaye, mais je ne sais pas. Essaye, essayons. Entendons, écoutons. Qu'est-ce que j'en suis, moi?
Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patita, chacapumba, chacapumba. A pumba chaca pumba chaca pumba chaca pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando.
Romance de l'enterrement Koya. Koya, c'est une tribu indienne dont il est issu, son père. Il était brûlant le soleil dans la rue blanche de Maimara. L'indigo cruel du ciel arborait son éternité. Les acacias déroulaient un tendre tapis de fleurs, tandis que janvier somnolait sur la campagne de pierre. Soudain, alors que bourdonnait l'abeille sur les maïs, le rouge sur la besace et dessous le ciel, la paix, par la longue, longue rue, en une germe serrée, passa la mort silencieuse et passa la vie auprès. Tout devant la croix de bois sans aucun nom pour nommer, derrière les Indiens de bronze, alcool, silence et misère. Femmes aux jupes fatiguées, mains pour le feu et la terre. La vie conduisant la mort le long du même trajet. Les roses de colle et papier, jamais elles ne parfumeront. Pour les aider, ont sangloté les acacias de Maimera. Rumeurs de femmes Koya, égrenant un faux chapelet, par la longue rue passa la vie et la mort auprès. C'était la fiancée de l'homme ou bien sa mère, qui sait, ou encore un enfant de rêve en quête de l'au-delà. C'était un homme de la terre, frère des sillons et des pierres. La vie passa et la mort qui s'enfuit et qui s'en ira. Mort qui traverse en silence cette sieste de cristal, litanie de pieds indiens, sans pompe ni funérailles, emporte au moins cette fleur, ma copla et ma solitude, et cette cruche de rêve brisée sur la campagne de pierre. Qui porte au fond de soi la mort possède une force de vie. Si l'on cherche l'infini, la mort est immensité. Malheureuse la pensée qui peut à peine s'envoler et cherche de pauvres raisons pour réussir à s'expliquer. Par la longue, longue rue, un jour on m'emmènera avec une croix de bois indienne sans aucun nom pour nommer. Je veux un cortège de coplas et pour tombe la campagne. Ensuite, laissez-moi avec elle, avec solitude. Ma fiancée. Ah non.
Je crois qu'on va... On ne va pas faire de pause musicale.
Non, c'est un problème. Bon, tant pis. Alors nous allons passer, nous allons découvrir un autre grand poète qui s'appelle Aimé Césaire. Donc, nous allons entendre ses poèmes et puis son histoire. Comment, alors bien sûr qu'il est question de l'esclavage qui existe toujours aujourd'hui, l'enlèvement des jeunes filles qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. 200 jeunes filles enlevées comme ça de l'école. C'est absolument hallucinant qu'on puisse encore vivre ces choses-là. Mais bon, c'est quelque chose qui ne va pas trop. Donc, Aimé Césaire est un homme, est un poète de langue française. Enfin, il a écrit beaucoup, beaucoup d'œuvres et... On l'appelle le poète de la négritude parce qu'il a inventé ce mot « négritude » où il revendique sa peau noire. Et il a fait de ça une œuvre considérable et d'ailleurs qui a eu une très grande influence. Donc, il brouille les données habituelles en appelant les contradictions. On aime César poète ou non. On peut le trouver excessif, pédant, obscur, avec une prédilection incurable pour le blasphème grandiloquent. On peut aussi se délecter de sa culture cérémonieuse. Fête de nuit, les maisons tendues filent leurs coupes abstraites de serpents, fer de lance et de rosace. Martinique, Jamaïque, tous les mirages et tous les lampornises ne peuvent faire sonner d'oubli dormant le coup de feu, le sang gâché, le sang d'acier, abîme fraternel des roses de Jéricho. Il réprouve ces anathèmes laconiques. Je te hais, je vous hais, et ma haine ne mourra pas. Création savante de littré philologue ou récréation anarchique de mauvais nègre, rigoureuse ou arbitraire dans sa difficulté, en tout cas jamais banale, telle se présente cette étrange poésie qu'il est malaisé de vouloir mettre en formule. Mais on ne saurait aborder Césaire sans parler d'abord négritude. Il y a quelque chose de plus atroce peut-être que les grandes tueries coloniales ou que les grandes exactions. C'est le spectacle de la médiocrité dévirilisant lentement, mais sûrement, un peuple. C'est le lot des Antilles, leur côté démon mesquin. Car des siècles d'asservissement ont passé sans le geste de se rebiffer. Des siècles de frustration non accompagnée d'agressivité, mis à part quelques soulèvements que nous verrons à propos de Toussaint l'ouverture à Saint-Domingue, ce dernier primordial prélude à l'indépendance. Césaire voit la négritude, la négraille, couchez dans la résignation, vous vautrez dans l'abrutissement béat, et non pas dans la négritude, debout, pour réagir, pour agir, tout simplement. Et plus encore que les propos des anciens esclavagistes, ce qui l'irritera, c'est d'entendre les philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute, que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni noir ni blanc. En faisant parler le roi Christophe, c'est Césaire qui assume son rôle d'éducateur du peuple. Car il en est qui ont plus de devoirs que d'autres. Et voilà pourquoi il faut en demander aux nègres plus qu'aux autres. Plus de travail, plus de foi, plus d'enthousiasme. Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir, gagner chaque pas. Ça, c'est un extrait de la tragédie du roi Christophe, qui a été d'ailleurs introduit à la Comédie française il y a quelques années. Il fait partie du répertoire de la Comédie française. Car la négritude implicite ou négritude essence, celle de l'âme populaire, des traditions et des tendances, ne suffit pas. Le zèbre sait-il qu'il est zébré ? La négritude explicite exige une certaine attitude, une volonté de réhabilitation et de combat. Œuvre d'intellectuel né sur les bords de Seine, c'est un plaidoyer exaltant pour la race opprimée, en même temps qu'un juste devoir de haine et de révolte, et une entreprise de désaliénation de la tutelle étrangère. Senghor a dit qu'il fallait tuer le vieux nègre en nous. Césaire pense qu'il y a place pour tous au rendez-vous de la conquête. À la question posée lors du Festival mondial des arts nègres, colloque sur la fonction de l'art nègre dans la vie du peuple et pour le peuple, le 7 avril 1960, Césaire a répondu « Évidemment, la négritude, il est difficile de dire quel en sera l'avenir, mais pour moi, tant qu'il y aura des nègres, il y aura la négritude, et je ne désespérerai pas des nègres tant qu'il y aura la négritude. Je ne suis pas de ceux qui veulent en faire une sorte d'école reposant sur des bases philosophiques étroites, un fondement stylistique ou encore moins biologique. Nous avons défini une fois pour toutes la négritude, et le président Senghor l'a défini comme étant un certain nombre de valeurs que nous considérons comme nègres et le désir de rester fidèle à ces valeurs. Par conséquent, je considère que la négritude, dans ce sens-là, ne peut pas être dépassée et que je ne peux pas imaginer un seul nègre qui décide de tourner le dos à ces valeurs. » Alors oui, il parlait, il assume quelque chose de très fort. On voit donc que la négritude est à la fois une morale et un but. C'est la foi en l'avenir du rayonnement de la culture noire et en l'apport du monde noir à la civilisation universelle. Ce qu'a démontré le Festival des Arts Nègres, rendez-vous du donner et du recevoir en même temps que défense et illustration de la négritude. Le futur est déjà commencé. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup, c'est très riche. C'est un homme qui a étudié beaucoup de langues, enfin, bref. Et il parle de... Il y a Rimbaud, parce que les poètes français l'ont beaucoup inspiré. Rimbaud, comme toujours, puisque son ombre apparaît partout, projetée sans la moindre manifestation poétique. Mais pour Césaire, il semble qu'il ait préféré l'argobat du Harar au jeune prodige de Charleville. Au fulgurant météore génial et dévoyé, il préfère l'homme qui s'était trompé de continent. Rimbaud haïssait l'Europe des assis, aux mesquines pelouses. Et si l'on veut, pour Césaire, un maître du blasphème, oui, il y a Rimbaud, qui rêvait d'Afrique, y est allé et en est mort. Alors bien sûr qu'il y a eu le surréalisme, on a considéré aussi qu'il pouvait... André Breton a dit qu'il admirait énormément son ami martiniquais, Aimé Césaire. Il disait « Cette faculté d'alerter sans cesse le fond, de fond en comble le monde émotionnel, jusqu'à le mettre sans dessus-dessous, ce mouvement, cette exubérance qui caractérise la poésie authentique par opposition à la fausse poésie, cette poésie qui vont au plus haut point par le pouvoir de transmutation qu'elle met en œuvre et qui consiste à partir des matériaux les plus déconsidérés parmi lesquels il faut compter les laideurs et la servitude même à produire. On sait bien que ce n'est plus l'or ou la pierre philosophale, mais bien la liberté. » Entre 1940 et 1945, le surréalisme apparaissait donc comme la seule issue possible à l'aliénation martiniquaise. Et pour Césaire, lui, bien sûr, certains croyaient que sa poésie se rattacherait à l'expressionnisme allemande, en réaction contre l'observation naturaliste et les moyens d'expression courants. Enfin, c'est à étudier, à en lire sa poésie. Parce que les poètes expressionnistes se donnaient pour mission de transposer chocs émotifs, sensations perçues, images ressenties en un langage scandé, recherché et surtout non usuel. Aimé Césaire, le prophète d'un monde en devenir. Je fonderai un nouveau ciel et une nouvelle terre, si bien qu'on ne pensera plus à ce qui était avant. L'avocat des damnés de la terre, l'expression est de Frantz Fanon, est né tout au bout du monde, va donc user de son singulier pouvoir, celui des mots. Il va les déverser en libation, à profusion, sur d'eux et sur de lui, se souvenant qu'il est du pays des sorciers. Il utilise à toute fin la sorcellerie incantatoire. Il y a encore du Rimbaud, l'Africain, là-dessous. Il avait foi en la vertu magique du verbe. Césaire dit de Patrice Lumumba, qu'il admire, « Homme d'imagination ». Toujours au-delà de la situation présente et par là même homme de foi, il est aussi l'homme d'Afrique, le Muntu. À la fois l'homme qui participe à la force vitale, le Ningolo, et l'homme du verbe, le Nomo. Nous dirons que Césaire lui-même est l'homme du verbe et selon la pensée africaine, l'homme exerce sa maîtrise sur les choses grâce à la parole. Par la parole, il peut créer, changer, commander. Or, commander aux choses par la force verbale, voilà la magie. Et cette magie du verbe, c'est précisément la poésie, acte créateur. Aussi, l'on comprend mieux les descriptions impératives de Césaire dont la voix commande au rugissement des choses hors de l'immensité. Le sorcier le rend présent. Je dis fleuve. Et ils deviennent réalité. Le nomo, c'est la parole germe, celle qui crée, à la disposition du magicien qui en use au gré de sa volonté, sans intermédiaire, contrairement au balai de l'apprenti sorcier et à la lampe du génie, sans nécessité d'un support. Aussi l'impératif sera-t-il le mode d'expression, proféré ou implicité, à l'origine de toute réalité engendrée, et de là, susceptible de toute métamorphose, puisque l'on a créé, lorsqu'on a créé, on peut transformer. C'est ainsi que l'évocation est simultanément dynamisme et processus de métamorphose. Aussi s'expliquent les mutations en chaîne si fréquentes chez Césaire. On sait qu'en magie, il suffit de déclencher un certain pouvoir pour qu'il ne s'arrête plus, sous réserve de telles formules magiques. Le sorcier a également le pouvoir de se transformer, de telles formules magiques. Le sorcier a également le pouvoir de se transformer aussi. Et l'on comprend mieux le mépris de Césaire pour les pseudomorphoses de ses condisciples de Schœlcher, lui qui détenait déjà en sa puissance tous les secrets de l'auto-métamorphose. C'est en ce sens que l'art de Césaire est révolutionnaire car il peut, à sa guise, bouleverser les cyprès et présider à une ère nouvelle, primaire ou autre, art qui réside dans la certitude que tout, y compris soi-même, n'est pas prisonnier de telle forme, mais peut s'en dégager, soulevé d'un irrésistible élan en un changement soudain. Aussi s'éclaire le « Je est un autre », toujours de Rimbaud. Il faut donner à l'image sa juste importance, plus grande que celle de la sémantique de chaque mot, ne pas se laisser décontenancer par son apparence arbitraire. Les images ne sont jamais arbitraires, c'est-à-dire non signifiantes. Je ne parle pas de la comparaison, mais de l'image, qui est le langage de l'inconscient et qu'il exprime par ses symboles et sa logique propre. Une critique trop souvent faite est que l'emploi de l'image trop individuelle risque de supprimer la communicabilité et de renfermer le poète en lui-même. C'est oublier le fond d'image de l'inconscient collectif. C'est oublier que presque toutes les images se ramènent à des images primordiales, lesquelles, incrustées dans l'inconscient collectif, sont universelles, comme le prouve le langage du rêve. Identique chez tous les peuples, par-dessus la variété des langues et des modes de vie, au fond, c'est l'image, la vraie langue universelle. Voilà. Il est cité par un philosophe, c'est Césaire qui dit ça. Nous retiendrons que Césaire assimile image et langage et que pour lui l'inconscient n'est pas individuel mais collectif, retransmis et rend communicable par le poème divulgué. Ce qui nous amène à la recherche des thèmes. C'est en effet la grande misère noire qu'il ressent et qu'il exprime tout au fond, tout au long des pages du cahier, qui ressort aussi dans maints autres poèmes, des plus sombres aux plus cyniques. Parce qu'il se veut de la race de l'oncle Tom, il se cramponne à une pauvre révolte laide comme la misère, car il sait que les vaincus sont effrayants. Les vainqueurs, les toubabs, les béquets, il les haït parce qu'ils sont riche de joie de vivre, de longue tranquillité, du talent de la civilisation qui a su faire impression. Nous disons qu'il les a haïs parce qu'il est revenu de sa haine, car le bonheur est difficile même pour les Blancs qui connaissent et ressentent aussi trop bien la misère, qui ont à cœur aussi ces vies fragmentaires, inachevées, ce monde de petits et de grands malheurs, et pour lesquels il y aura toujours un chien perdu quelque part qui les empêchera d'être heureux. Cette conscience de la misère s'accompagne donc de révolte contre l'Europe, mais dans sa mise en accusation des valeurs et des hommes. Il n'oublie pas la grande bêtise de l'homme noir, premier responsable de sa grande pitié, brut inéducable et sceptique. Devant toutes les tentatives de changement, aussi tente-t-il de secouer des siècles d'hébétude, d'ébranler l'inertie où se complaît son peuple. Le roi Christophe s'y consacrera en toute lucidité pour en mourir. Il nous faudra parler aussi de la cérémonie cultuelle du vaudou, où l'on adore précisément le serpent. Religion bizarre importée du Dahomey aux Antilles, qui jouit d'une étrange réputation de perversité et qui, à travers son ordonnance cérémonielle et sa hiérarchie sacerdotale, renforce les forces physico-psychiques du participant en décuplant ses facultés d'autocontrôle. Cette magie vaudou n'est pas sans incidence sur ces airs sorciers, mais par-delà une structure religieuse originale aux Antilles. C'est de l'Afrique qu'il se souvient. L'Afrique dont il recueille le passé, sur le passé de laquelle il se recueille pour lui rendre un vibrant hommage et tenter de faire passer l'amour qui lui brûle l'essence et l'âme. Car l'Afrique est le point faible de l'homme cruel, qui désigne les hommes et les choses à mots couverts et découverts. L'Afrique multiple et une, sa passion et sa bonne nouvelle. Pour saluer le tiers-monde, Mali, Guinée, Ghana, Sénégal et Niger, il trouvera les accents les plus émus, les plus tendrement sincères qui feront de ce long frémissement une prière ardente, laissant la poésie savante pour un simple cri d'enfant jailli du fond des temps. Ô mère, ô matère. On a donc pu critiquer ces airs mal installés dans l'hybride, propulsé ou analysé par la culture qui lançait ses énigmes avec l'acribie d'un faiseur de mots croisés insolubles. Mais l'apparence recouvre une réalité profonde et l'érudition dont on a fait à grief à Césaire, un sens véritablement planétaire de la poésie. On objectera qu'il ne peut pas être compris de tous, et cela est vrai. Mais comment résister à cette fougue, à cette force qui se rit des obstacles, en nous invitant au voyage ? Alors, il a écrit beaucoup de poèmes, mais aussi beaucoup en prose. Donc, un poème qui s'appelle, un poème choisi de Cadastre. Le titre, entre autres, Massacre. De toutes leurs forces, le soleil et la lune s'entrechoquent. Les étoiles tombent comme des témoins trop mûrs et comme une portée de souris grise. Ne crains rien, apprête tes grosses os qui si bien emportent la berge des miroirs. Ils ont mis de la boue sur mes yeux et je vois terriblement, je vois de toutes les montagnes, de toutes les îles. Il ne reste plus rien que les quelques mauvais chicots de l'impénitente salive de la mer. Un long poème qui s'appelle « Aux écluses du vide ». Au premier plan et fuite longitudinale, un ruisseau desséché, sommeilleur, rouleur de guadets d'obsidienne. Au fond, un point, quiète architecture de Burz, démantelée de montagnes érodées, sur le fantôme deviné, desquels naissent serpents, chariots, œils de chat, des constellations alarmantes. C'est un étrange gâteau de lucioles lancé contre la face grise du temps. Un grand éboulis de dessous, de tessons d'icônes et de blasons de poux dans la barbe de Saturne. À droite, très curieusement, debout à la paroi squameuse, de papillons crucifiés, ailes ouvertes dans la gloire, une gigantesque bouteille dont le goulot d'or très long boit dans les nuages une goutte de sang. Pour ma part, je n'ai plus soif. Il m'est doux de penser le monde défait comme un vieux matelas copra, comme un vieux collier vaudou, comme le parfum du pécaria battu. Je n'ai plus soif. Par le ciel ébranlé, par les étoiles éclatées, par le silence tutélaire, de très loin, d'outre moi, je viens vers toi. Femme surgie d'un bel aubier, et tes yeux blessures mal fermées, sur ta pudeur d'être née. C'est moi qui chante d'une voix prise encore dans le balbutiement des éléments. Il est doux d'être un morceau de bois, un bouchon, une goutte d'eau dans les eaux torrentielles à la fin et du recommencement. Il est doux de s'assoupir au cœur brisé des choses. Je n'ai plus aucune espèce de soif. Mon épée faite d'un sourire de dents de requin devient terriblement inutile. Ma masse d'armes est très visiblement hors de saison et hors jeu. La pluie tombe. C'est un croisement de gravats, c'est un incroyable arrimage de l'invisible par des liens de toute qualité. C'est une ramure de syphilis, c'est le diagramme d'une soûlerie à l'eau de vie, C'est un complot de cuscutes. C'est la tête du cauchemar fichée sur la pointe de lance d'une foule en délire. J'avance jusqu'à la région des lacs bleus. J'avance jusqu'à la région des sols fatars. J'avance jusqu'à ma bouche cratériforme vers laquelle ai-je assez peiné? Qu'ai-je à jeter? Tout, ma foi, tout! Je suis tout nu. J'ai tout jeté. Ma généalogie, ma veuve, mes compagnons. J'attends le bouillonnement. J'attends le coup d'aile du grand albatros séminal qui doit faire de moi un homme nouveau. J'attends l'immense tape, le gouflet, le soufflet vertigineux qui me sacrera chevalier d'un ordre plutonien. Et subitement, c'est le débouché des grands fleuves, c'est l'amitié des yeux de tout corps, c'est l'érection fulminate de montagnes vierges. Je suis investi. L'Europe patrouille dans mes veines comme une meute de filaires sur le coup de minuit. Europe éclat de fonte, Europe tunnel bas d'où suinte une rosée de sang. Europe vieux chien, Europe calèche à verre. Europe tatouage pelé, Europe ton nom est un gloussement rauque et un choc assourdi. Je déplie mon mouchoir, c'est un drapeau. J'ai mis ma belle peau, j'ai ajusté mes belles pattes onglées. Non, ancien, je donne mon adhésion à tout ce qui poudroie le ciel, de son insolence à tout ce qui est loyal et fraternel, à tout ce qui a le courage d'être éternellement neuf, à tout ce qui sait donner son cœur au feu, à tout ce qui a la force de sortir d'une sève inépuisable, à tout ce qui est calme et sûr, à tout ce qui n'est pas toi, ok, considérable.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl, and me, oh Lord, is one. Go tell my baby sister, never do what I have done, to shun the house in New Orleans they call the rising sun.
Peut-être dire un dernier poème. Je voulais bien sûr, j'avais préparé aussi l'histoire, mais ça vous pouvez le lire, hein, vous pouvez trouver ces livres, de Toussaint Louverture, toute son histoire avec la Révolution française et Bonaparte qui l'a fait mourir quand il remettait à la mode l'esclavage. Donc, juste un petit poème qui s'appelle Ferment. Pourquoi ferment ? Ferrement. C'est l'ensemble des pièces de métal qui entrent dans la construction d'un bâtiment. Oui, mais c'est aussi le fait de river les fers d'un esclave. Mot vieilli, disparu, il est toujours en usage lorsqu'il s'agit de river les fers d'un forçat. Et de forçat, la vie en est pleine. de ferment à ferment, il n'y a pas loin. Les fers sont le levain de la haine, de tout ce qui excite, révolte et sédition, mais aussi germe d'espoir et d'étranges certitudes. C'est le bris des fers vers la liberté.
I am a poor wayfaring stranger, while journeying through this world of woe. There in no sickness, toil and danger, in that bright world to which I go. I'm going there to see my mother. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I am a poor wayfarer, stranger, while journeying through this world of woe. There ain't no sickness, toil and danger in that bright world to which I go. Sam the Hammer killed John Henry Say, killed John Henry can kill me. Honey baby.
Le temps de la liberté. Le whisky avait dénoué ses cheveux sales et flottait sur la force des fusils. La carapace des tanks et les jurons du juge, au jour non lagunaire, plus têtu que le bœuf du pays baoulé, qui a dit que l'Afrique dort, que notre Afrique se cure la gorge, mâche du cola, boit de la bière de mille et se rendort. La TSF du gouverneur avait colporté ses mensonges, amassé le fief dans la poche à fiel des journaux. C'était l'an 1950, au mois de février, qui, dans le vocabulaire des gens de par ici, s'appellera la saison du soleil rouge. Cavalli, Sassandra, Bandama, petit fleuve, au mauvais nez, qui à travers vase et pluie, d'un museau incertain, chercher petit fleuve au ventre gros de cadavre qui a dit que l'Afrique se terre, frissonne, alarme à temps, a peur et se rendort. Histoire. Je compte l'Afrique qui s'éveille, les hommes, quand, sous la mémoire hétéroclite des chicottes, ils entassèrent le noir, feu noué, dont la colère traversa comme un ange l'épaisse nuit verte de la forêt. Histoire, je compte l'Afrique qui a pour arme ses poings nus, son antique sagesse, sa raison toute nouvelle. Afrique, tu n'as pas peur, tu combats, tu sais mieux que tu n'as jamais su, tu regardes. Les yeux dans les yeux des gouverneurs de proie, des banquiers périssables, belle sous l'insulte Afrique, et grande de ta haute conscience, si certain le jour, quand au souffle des hommes, les meilleurs, aura disparu le tsetse colonialiste.
There's a man a-going. There's a man a-going round taking names. He has taken my father's name and has left my heart in pain. There's
a man a-going round, taking names. Oh, death is the man taking names. Oh, death is the man taking names. Has taken my mother's name and has left my heart in pain. There's a man a-going round, taking hands on me. Oh, I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord has laid his hands on me.
My Lord's done just what he said.
I know the Lord has laid his hands on me.
He's healed the sick and raised the dead.
I know the Lord has laid his hands on me. Oh, I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord has laid his hands on me. Oh, I know the Lord, I know the Lord, I know the Lord has laid his hands on me. Get on board, the little children, get on board, the little children, get on board, the little children, there's room for many more. The gospel trains are coming, I hear it just at hand. Hear the car wheels rumbling and rumbling through the land. Get on board, the little children, get on board, the little children, get on board, the little children, there's room for many more. The fare is cheap and all can go, the rich and the poor are there. No second class or baldest train, no difference in the fare. Get on board, the little children, get on board, little children, get on board, the little children, there's room for many a more. Get on board, the little children, get on board, a little children, get on board, a little children, there's room for many a more. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah. Little David was a shepherd boy. He killed Goliath and he shouted for joy. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah. Now Joshua was the son of Nun. He never would quit till his work was done. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah. Now that sinner man, he gambled and fell. He wanted to go to heaven, but he had to go to...